Chapitre 4. C'est sur cet empire si vaste, sur cette ville si magnifique, sur ces peuples si nombreux, qu'une destinée extraordinaire fit régner Théodora. Théodora a écouté Procope, naquit dans la loge d'un gardien de bêtes féroces de l'amphithéâtre des Vers. Son père, Acacios, mourut peu de temps après sa naissance, c'est-à-dire dans les dernières années du 5e siècle, sous le règne d'Anastase. La femme d'Acacios devint l'épouse ou la maîtresse de l'homme qui avait remplacé son mari comme Arctrotoph, mais, séduit par une offre d'argent, le directeur des Jeux donna bientôt cet emploi à un autre individu. La pauvre femme, réduite à la misère, s'avisa d'un touchant stratagème. Un jour de course à l'hippodrome, elle fit entrer Théodora et ses deux autres petites dans l'arène. Voilée, la tête couverte de bandelettes comme des victimes consacrées, elles s'agenouillèrent et tendirent leurs petites mains vers les spectateurs. Les Verts ne firent que rire de ses larmes et de ses supplications, mais les Bleus en furent émus. Ils profitèrent de l'occasion pour donner une leçon d'humanité à la faction adverse. Le gardien de leur cirque venait de mourir, ils nommèrent à sa place le beau-père des trois petites suppliantes. La famille passa ainsi de l'amphithéâtre des Verts dans celui des Bleus. Ces amphithéâtres, que chaque faction avait édifiés à ses frais et où les courses et les jeux étaient bien plus fréquents qu'au grand hippodrome, n'étaient point réservés seulement aux courses de chars et aux exhibitions de bêtes sauvages. On y faisait entendre des chœurs de musique, on y donnait des danses, on y montrait des jongleurs et des acrobates, on y représentait des pantomimes. C'est dans ces exercices et dans ces bouffonneries que Théodora parut devant le public. Encore trop enfant pour remplir un rôle, elle ne fit d'abord qu'accompagner, comme une petite servante, sa sœur aînée Comito, qui déjà était en faveur. Elle lui portait son tabouret, lui présentait divers objets, lui faisait des grimaces. Quand Théodora fut devenue grande, tout le succès fut pour elle. Elle n'était ni danseuse ni chanteuse, mais acrobate pleine d'adresse et de grâce, et mime pleine d'esprit et d'invention. Dès qu'elle entrait en scène, tous les regards se portaient sur elle pour ne plus la quitter. Elle provoquait surtout les applaudissements quand un pantomime commençait à la battre ou à la souffleter. Elle prenait sous les coups une physionomie si drôle, faisait des mines si gentilles, montrait si bien le rire au milieu de ses feintes larmes que nul ne pouvait garder son sérieux. Théodora était-elle souverainement belle, comme l'atteste Procope dans les édifices? Sa beauté, dit-il, est telle que personne ne saurait l'exprimer, ni par des paroles, ni par des images. Était-elle seulement jolie et gracieuse, comme le même écrivain l'indique dans l'Histoire secrète? D'après ce second portrait, Théodora était un peu petite et de teint très blanc et très pâle. Ses yeux extrêmement vifs avaient un incomparable éclat. L'historien arrête ici sa description sommaire, et ne nous dit point si Théodora avait le corps d'une frinée, fait pour convaincre un aréopage et pour poser devant un appel. On le peut supposer, puisqu'elle aimait apparaître dans l'amphithéâtre, ayant pour tout vêtement une écharpe de soie nouée autour des reins. Elle eût préféré, ajoute Procope, se montrer complètement nue au public, mais les règlements de police le défendaient. Dans les coulisses et pendant les répétitions, elle quittait tout vêtement, et, nue au milieu des mimes et des acrobates, elle s'exerçait à lancer le disque. À la profession de funambule, Théodora joignait le métier de courtisane. Avant qu'elle fût nubile, elle se livrait aux esclaves qui attendaient leur maître à la porte du théâtre. Quand elle fut jeune fille, on compta par centaines le nombre de ses amants d'un jour. Patrice, acrobate, esclave, portefaix, matelot, elle se donnait à tous avec une égale facilité et une égale dépravation. Théodora personnifie la débauche antique dans toutes ses infamies. Auprès d'elle, Messaline est continente. À mener cette vie, Théodora gagna un affreux renom. Lorsqu'on la rencontrait dans quelque rue, on se détournait ou l'on s'arrêtait afin de n'être point souillé du contact de ses vêtements, de l'air même qu'elle respirait. Sa vue, au lever du jour, passait pour un présage néfaste. Cependant, un certain Essebol, personnage aussi rebelle aux idées superstitieuses qu'insensible à l'opinion, emmena Théodora dans la Cyrénaïque, dont il venait d'être nommé gouverneur. Essebol pouvait espérer, d'ailleurs, que la réputation de Théodora n'avait pas pénétré jusqu'en Afrique. Le gouverneur se fatigua vite de cette indigne maîtresse. Il la chassa et la malheureuse tomba dans la plus triste misère. Elle courut toutes les villes de l'Afrique orientale, depuis Cyrène jusqu'à Alexandrie, en vivant de prostitution. Vieillie et fanée, portant, dit Procope, sur son corps et sur son visage les flétrissures de la débauche, elle put enfin revenir à Constantinople entre sa 20e et sa 25e année. La prédiction d'une sorcière, confirmée par un songe, engageait Théodora à retourner dans la capitale. Elle avait rêvé qu'elle y épouserait le prince des démons et qu'elle aurait ainsi toutes les richesses de l'univers. Ce prince des démons, selon Procope, qui croit à tout sauf à la vertu des femmes, c'est Justinien. Justinien était alors le plus puissant personnage de l'Empire après l'Empereur. Né en Dacie, entre 483 et 480, d'une pauvre famille de paysans, il avait été emmené encore enfant à Constantinople par les soins de son oncle Justin, qui, de simple soldat, était devenu, grâce à de valeureux services, comte, sénateur et commandant de la garde impériale. Un savant moine nommé Théophile fut chargé de Justinien et lui donna une instruction conforme au rang élevé qu'occupait son oncle. Justinien parlait avec éloquence et écrivait élégamment. Il avait des connaissances en musique et en architecture et était surtout versé dans le droit et la théologie. Ambitieux à long terme, habile à distinguer le parti le plus fort et empressé à le protéger afin de s'en servir un jour, connaissant les hommes et sachant les utiliser, peu scrupuleux dans le choix des moyens, froid, patient, dissimulé, et jugeant sainement qu'une position, même subalterne dans le palais, où sourdissaient tant d'intrigues, était un marchepied plus sûr vers les suprêmes honneurs qu'une charge importante dans les provinces, Justinien avait quelques-unes des bonnes qualités et presque toutes les mauvaises qu'il faut à celui qui veut monter vite et haut. Il est même présumable que ses conseils intéressés ne furent point inutiles à son oncle Justin pour garder si longtemps ses fonctions et pour obtenir enfin la pourpre impériale après la mort d'Anastase, 518. Le nouvel empereur récompensa Justinien en le nommant coup sur coup sénateur, stratège, patrice, gouverneur honorifique de l'Afrique et de l'Italie, stratélate, enfin comte des gardes du palais. Ce fut à l'époque où Justinien était revêtu de toutes ses dignités, vers 521, que la fortune mit Théodora sur le chemin du neveu de l'empereur. Il s'éprit d'elle et l'on peut croire qu'il triompha facilement de sa vertu. Au demeurant, il faut reconnaître que cette femme, dont la vue passait pour un présage funeste, ne fut point fatale à son amant. La première année de leur liaison, Justinien obtint le consulat et il obtint dans des circonstances particulièrement heureuses. À cause des troubles provoqués en 520 par les rivalités des factions, on avait interdit les jeux pour tout le reste de l'année. C'était au nouveau consul de rouvrir l'arène, coup de chance qui établit la popularité de Justinien. La magnificence dont il fit montre dans cette occasion la porta au comble. Puisant sans mesure dans le trésor impérial qu'avaient accru les économies d'Anastase, il dépensa plus de 8 millions de francs en jeux, en exhibition d'animaux féroces, en distribution et en largesse de toutes sortes. 2 ans plus tard, le Sénat proposa officiellement à l'empereur de créer Justinien Nobilissime, titre équivalent à celui d'altesse impériale, et qui désignait comme héritier du trône le personnage auquel il était conféré. Justin ratifia le décret sénatorial. De plus en plus puissant, Justin obtint pour Théodora le titre de patrice, le premier après celui de nobilissime dans la hiérarchie nobiliaire. Théodora conquit ainsi un crédit considérable, grâce auquel, en raison du nombre de solliciteurs et de plaideurs qui affluaient à Byzance, elle amassa d'énormes sommes d'argent. Une loi de Justinien devait dans la suite étendre les privilèges impériaux aux biens privés de Théodora. Ces richesses, ce titre de patrice, ce n'était pas encore assez pour Théodora aux yeux de Justinien fou d'amour. Il voulait l'épouser, mais sa mère le suppliait de renoncer à ce mariage et sa tante, l'impératrice Euphémie, s'y opposait de tout son pouvoir. De plus, une loi ancienne portait qu'un citoyen parvenu à la dignité de sénateur ne pouvait épouser une comédienne, ni la fille d'une comédienne, ni toute personne abjecte ou de basse extraction. Euphémie étant morte en 523, Justinien obtint de l'empereur l'abrogation de la loi et, sans égard pour les larmes de sa mère qui, dit-on, mourut de chagrin, il épousa publiquement Théodora. 3 ans plus tard, le vieux Justin, déjà plusieurs fois sollicité par le Sénat d'associer Justinien à l'Empire, mais qui jusque-là croyait encore avoir de longs jours de vie, se sentit prêt de mourir. Le jeudi saint, 1er jour d'avril 527, l'empereur manda dans sa chambre d'agonisant Justinien et Théodora et, en présence d'une députation du Sénat, il leur donna le titre d'Auguste. Le jour de Pâques suivant, les deux époux furent solennellement couronnés à Sainte-Sophie par le patriarche Épiphane. Ils allèrent ensuite recevoir la consécration populaire dans l'hippodrome, qui, en certaines circonstances, servait de forum. Pas un murmure, pas un mot de blâme ne s'éleva de la foule. Au contraire, des acclamations unanimes accueillirent Justinien et sa femme, et le peuple les porta en triomphe jusqu'au palais impérial. Nul dans le Sénat, remarque Procope, nul dans le sacerdoce, nul dans le peuple, à qui Théodora s'était prostituée à cette même place où on l'acclamait, nul dans l'armée ne parut s'indigner de cette honteuse comédie. Justin mourut quelque temps après le couronnement. La translation du pouvoir se fit sans trouble. Théodora la funambule, Théodora la courtisane, était désormais l'impératrice des Romains, et les magistrats, les évêques, les gouverneurs des provinces, les chefs des armées, lui prêtaient serment en ces termes. Je jure par le Dieu Tout-Puissant, son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, par la glorieuse Marie toujours vierge, par les 4 évangiles que je tiens en mes mains et par les saints archanges Michel et Gabriel, d'être fidèle à nos maîtres très sacrés, Justinien et sa femme Théodora.